Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
De retour sur les ondes de CFAQ 88.3 pour le 9. Nouvelle chronique. Maintenant, je me tourne vers Anaëlle pour parler du quad avec l'administration Trump. Qu'est-ce que le quad?
Oui, bonjour tout le monde. Ben, le quad, c'est en anglais, ça signifie le Quadrilatéral Security Dialogue. Okay. Ben, en fait, c'est une alliance entre les États-Unis, l'Inde, le Japon et l'Australie. Ça a été formé, en fait, c'est pas vraiment comme quelque chose un peu comme l'ONU, mais ça a été vraiment formé après des circonstances assez atténuantes, notamment l'idée initiale du groupe avait été émergée après le tsunami de 2004. Okay. Et lorsque ces pays avaient coopéré pour une aide humanitaire d'urgence. Et il faut savoir qu'ils se sont rencontrés en janvier 2025 parce que il y a tellement de choses qui se sont passées. Puis il faut savoir que c'est quand même une alliance qui c'est pas assez constant comme alliance, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui se garde bien parce que ça commence puis après ils se rappellent que ah au fait on a une alliance, il faut bien qu'on se regroupe et tout. Mm-hmm. Puis ils se sont rencontrés justement en janvier 2025 parce que l'administration américaine a changé. Comme dans plein d'autres organisations internationales, les États-Unis sont très souvent le cœur des organisations internationales. Mais comme le Quad, mais vu que l'administration a changé, mais c'est sûr que avec Trump qui est arrivé, c'est sûr qu'il y a certaines choses qui comme ont changé, dépendamment de comment Biden gérait les choses. Et comme je disais tantôt, que les quatre puissances ayant des idées stratégiques convergentes dans la région de l'Indo-Pacifique, les États-Unis, leaders de l'Alliance, cherchent à contenir l'expansion de la Chine en mer de Chine méridionale et à protéger les routes maritimes commerciales essentielles au commerce mondial. Le Japon, puissance de navigation et militaire régional, participe activement au Quad pour garantir la liberté de partage, une frontière de partager une frontière avec la Chine et l'Inde, qui partage une frontière disputée avec la Chine, voit dans le Quad un moyen de renforcer ses capacités de défense et de contrecarrer l'influence chinoise dans l'océan Indien. Enfin, l'Australie, dépendante du commerce maritime et soucieuse de préserver sa souveraineté face aux pressions économiques de Pékin, soutient activement la coopération militaire du Quad pour garantir un Indo-Pacifique libre et ouvert. Ensemble, ces pays forment une alliance stratégique visant à équilibrer les rapports de force dans la région face aux ambitions croissantes de la Chine. La montée en puissance du Quad s'inscrit dans un contexte où l'influence grandissante de la Chine dans la région Indo-Pacifique est perçue comme un défi stratégique par les membres de cette alliance. En effet, Pékin cherche à étendre son contrôle en mer de Chine méridionale en affirmant des revendications territoriales sur un ensemble d'îles et de récifs, notamment dans les archipels, dans les constructions d'îles artificielles, en y déployant des infrastructures militaires telles que des pistes d'atterrissage, des radars, des installations de défense, renforçant ainsi sa présence et sa capacité de projection de force dans une zone cruciale pour le commerce mondial. Tout ce que je viens d'expliquer, c'est vraiment un peu le but de pourquoi existe un peu le Quad. C'est vrai qu'il y a des intérêts économiques, mais comme ils savent que si la Chine devient la grande puissance qu'elle souhaite devenir, il y aura beaucoup de déséquilibre en Indo-Pacifique. Et c'est un peu le but de l'alliance entre ces quatre puissances pour pouvoir équilibrer un peu les forces dans cette région-là du monde. Et Après, vraiment, pour se baser sur le sujet qui nous amène, c'est vraiment que lors de cette rencontre entre Marco Rubio et les ministres du Quad, le secrétaire d'État américain a cherché à rassurer les alliés quant à la continuité de la coopération militaire sous l'administration Trump. Il a notamment affirmé que les exercices essentiels pour l'interopérabilité des forces navales du Quad seraient maintenus, tout comme la présence militaire américaine en Indo-Pacifique, notamment à Guam, Okinawa, et Diego Garcia. Cependant, un changement majeur se dessine dans l'approche économique des États-Unis vis-à-vis du Quad. Ce n'est pas, ça ne nous étonne pas. Sous Joe Biden, Washington avait mis en place des projets d'investissement stratégiques, notamment dans les semi-conducteurs, les infrastructures critiques et la diversification des chaînes d'approvisionnement pour limiter la dépendance de la Chine. L'objectif était de renforcer l'indépendance économique des alliés et d'assurer une résilience face aux perturbations du commerce international. En revanche, l'administration Trump en 2025 semble moins s'incliner vers ses engagements financiers que Biden avait pris parce que Trump est fidèle à sa doctrine « American first ».
Ouais, c'est ça.
Trump privilégie une approche plus nationaliste et transactionnelle, cherchant à réduire les dépenses internationales. Cette nouvelle posture pourrait affaiblir la dynamique économique du Quad et inciter des partenaires comme l'Inde et l'Australie à chercher d'autres alternatives de coopération, parce qu'il faut avouer qu'ils se sentent beaucoup... un peu intimidé par la Chine, parce que la Chine a plusieurs alliés, notamment en Afrique. Ils ont plusieurs alliés en Afrique, avec la Russie. Il y a tellement de choses, fait que si comme les États-Unis laissent tomber un peu l'idée de Joe Biden de pouvoir comme rééquilibrer les forces, de financer pour pouvoir rééquilibrer les forces, fait que les autres alliés se disent « Ah, ok, mais si c'est comme ça, ben, je pense que je vais comme aller un peu me chercher de l'aide ailleurs, comme vite fait, surtout avec l'Australie qui est vraiment dépendante, comme je disais tantôt, des autres puissances un peu. »
Donc, c'est ça. Donc, pas une tentative d'union, mais parce qu'elle a existé. Fait que littéralement, elle était là, mais c'est ça. C'est que maintenant, comme il y a un petit repli sur les États-Unis eux-mêmes, ben, ça devient un peu plus difficile peut-être d'espérer que ça serait surprenant que les quatre se dissocient complètement, mais c'est vrai que probablement les États-Unis vont moins être présents dans cette union-là, quoique il n'était peut-être pas une puissance majeure non plus, mais ce traité-là existait entre les quatre.
Ouais.
Bah après, moi j'ai envie de dire actuellement, enfin, je sors un peu du sujet quand je dis ça, mais en général, on dit une période où un circuit financier, ça dure 70 ans à l'échelle mondiale. Actuellement, le dernier qui était passé, c'est ce qui s'est passé du coup. Par exemple, tu demanderais à quelqu'un qui se réveille avant 82, il comprend pas, il y a plus d'Union soviétique, il se dit qu'est-ce qui se passe ? Parce que tu as toute une structure financière qui a changé. Actuellement, il y a 70 ans qui sont passés et on arrive aussi à cette date limite. Donc potentiellement, on va revoir une mise en place totalement différente des marchés économiques, des commerces, de l'économie mondiale aussi, de la structure d'économie mondiale, notamment avec la Chine qui va reprendre encore plus de galons, plus de puissance. Et on va voir l'amenuissement et la fin peut-être de la démocratie qu'on a en Europe. Donc j'ai envie de me dire que dans ça, les actions de Trump avec la Chine, ça ne me choque plus. Ce qui, je pense, qui sert avant tout, surtout à préparer, à s'avancer foncièrement sur, comment dire, recentraliser son pouvoir économique et la force économique des Américains. Mais comme dirait le ministère chinois, je pense que c'est peut-être pas la meilleure des démarches pour se préparer pour cet avènement. Parce que, par exemple, on sait qu'il n'y a personne qui est gagnant, soit dans une guerre économique ou même tarifaire. Vis-à-vis de ça, je dirais que peut-être il devrait y avoir plus d'indépendance de choix de la part des entreprises vis-à-vis... Moi, je veux dire ça. Je pense que les placements des entreprises devraient être plus indépendants vis-à-vis des situations politiques et pas chercher forcément à se nationaliser comme on le dit si bien.
Mais ton lien avec l'Inde et l'Australie est où là-dedans? Parce que essentiellement c'est juste un accord pour surveiller la Chine, qu'ils ne viennent pas voler des territoires.
Pas que, parce qu'en soi, la surveillance de la Chine aussi, elle se base sur le fait que Trump, actuellement, il cherche aussi à amputer les relations qu'il a avec Washington et Pékin. Donc,
oui, mais ça, c'est complètement... Tout, mais c'est à part, là, c'est les États-Unis eux-mêmes qui font ça. Là. Oui, les 10% plus un autre 10 sur d'autres choses. Là, mm-hmm. Mais oui.
Mais vis-à-vis de ça, du coup, actuellement, juste, on peut se demander si derrière, c'est pas surtout une décision avant tout économique qui se place par rapport à Trump.
Oui, ultimement, l'économie gérait un peu tout. Hein, fait que ultimement, c'est sûr que ça va être ça. Mais il n'y avait pas... C'est pas un traité de libre-échange là, qu'il y a entre l'Australie, l'Inde, le Japon puis les États-Unis. C'est plus comme une surveillance d'un coup.
De force.
C'est ça. Donc, d'un coup que la Chine voudrait envahir Taipei, que d'un coup, que tu sais qu'il faut surveiller s'ils veulent prendre l'expansion parce qu'eux disent que les eaux entre la Chine et le Japon, ça leur appartient, fait qu'ils veulent la possession de ça.
Vrai, dans tous les cas, ce que je te dis, c'est que vis-à-vis de ça, le positionnement qu'ils ont, c'est avant tout aussi économique, que ce soit la Chine ou les États-Unis. Parce que ce soit en se positionnant en tant que défenseur pour la situation pour le Japon et les autres pays annexes, que tu le veux ou non, là, Trump, actuellement, ce qu'il cherche à faire, c'est à juste réceptionner et maintenir ses flux des interactions qu'il a avec le Japon et le reste des pays concernés. C'est ça que je te dis. Mais au-delà de ça, je pense que c'est surtout qu'il devrait. Je pense qu'il devrait avoir quand même une indépendance des choix d'entreprise pour conférer les principes. Comme c'est dit dans les principes de marché, mais bon.
Peut-être. Mais écoute, on verra ce qui en résultera, là, ça c'est clair, parce que c'est ça, ça risque de devenir un sujet important, parce que, comme tu le dis, Anaëlle, maintenant que les États-Unis vont peut-être vouloir essayer de s'en aller,
ouais.
Ça risque d'être un peu plus
compliqué
différent,
pour
un peu
les
plus
compliqué. Alliés, très cool.
Voilà. Donc, merci pour ça. On fait une courte pause ici sur les ondes de CFAQ pour la deuxième heure du 9 au 81.3 à Sherbrooke.